France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Joséphine Reynard et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Le Canada votait hier pour des élections fédérales anticipées. 4 épisodes sur les piliers du modèle canadien et leur remise en cause ou pas. Aujourd'hui, les faux-semblants d'une superpuissance qui exprime sa fierté de sa nature sauvage et la démolit à coups d'explosifs pour conserver son statut de géant de l'extractivisme. Et le nouveau Premier ministre, Mark Carney, n'y veut pour l'instant rien changer.
Today, I'm announcing a comprehensive new approach.
Aujourd'hui, j'annonce une nouvelle approche globale pour faire du Canada la superpuissance énergétique mondiale. Cela implique d'utiliser l'énergie canadienne pour remplacer l'énergie importée, y compris celle provenant des États-Unis.
On est là pour continuer à défendre la lutte contre les changements climatiques, la baisse des émissions, et on continue d'être là pour reconnaître qu'on a besoin de pétrole dans le monde pendant encore plusieurs années. Cet équilibre-là nous a permis de baisser les émissions pour la première fois dans l'histoire des gouvernements du Canada.
On s'organise, c'est pas toujours évident quand on est des citoyens de se mobiliser et tout, parce qu'on fait face à des machines, une machine minière, une machine gouvernementale. On a l'impression qu'on est comme David contre Goliath, si on peut dire.
En Amérique du Nord, chaque détail est atteint de gigantisme, écrivait Jules Romain. Alors imaginez une mine, un puits de pétrole ou une de ces machines décrites ici par un membre du comité citoyen d'opposition à un projet minier en Outaouais, une région du Québec. Lors de son arrivée au pouvoir en 2015, Justin Trudeau avait promis de faire du Canada un pays exemplaire en matière d'environnement, mais rien n'aura finalement empêché les industriels du secteur de continuer à investir dans ce pays qui s'est développé autour et par l'extractivisme, activité qui représente aujourd'hui 42% des émissions de CO2 du Canada et contribue à en faire le quatrième plus gros émetteur de gaz à effet de serre par habitant de la planète. La taxe carbone, l'une des rares mesures prises en la matière par le gouvernement précédent, a très vite été supprimée par Mark Carney, Premier ministre par intérim, confirmé hier dans les urnes, et qui n'a pas l'intention de remettre en cause un modèle qui rapporte, a fortiori en ces temps de défiance avec les États-Unis de Donald Trump. Le fonctionnement du Canada qui donne des droits sans équivalent aux entreprises minières n'est donc pas prêt d'être remis en cause. Comment l'exploitation des ressources naturelles a-t-elle structuré le développement du Canada et quelles relations entretiennent la classe politique et l'industrie extractive? On en parle avec nos invités. William Saché-Frélon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur associé de l'université Andina Simone Bolivar de Quito en Équateur. Et vous êtes justement depuis Quito où il est 4h04 du matin précisément. Vous êtes donc un chercheur français en poste à Quito et qui travaillait sur l'activité extractivisme du Canada. C'est ça aussi Culture Monde. Vous avez coécrit avec William Saché Paradis sous terre. Comment le Canada est devenu une plaque tournante de l'industrie minière mondiale parue aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour Lila Benaza.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en géographie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes spécialiste de l'exploitation des sables bitumeux en Alberta, précisément, mais vous connaissez bien le Canada en général et vous étudiez, en tant que géographe, vous utilisez beaucoup d'images satellites pour cartographier votre travail. Alors, commençons par là. Qu'est-ce qu'on voit de l'exploitation minière depuis les cieux du Canada ?
Oui, donc j'utilise pas mal les imageries satellitaires pour illustrer mon travail. Donc quand on observe cette région minière qui est située au nord de l'Alberta à Fort McMurray, on constate un contraste qui est saisissant en fait entre d'immenses étendues forestières, donc la forêt boréale, qui est une forêt vierge qui n'a jamais été encore impactée auparavant par une quelconque industrie, Et depuis les années donc 60, depuis le début de l'exploitation pétrolière en Alberta, on a donc des paysages complètement lunaires, de bassins de décantation, de bassins de résidus qui sont immenses. On a des exploitations, donc c'est une exploitation minière qui se déroule à cet endroit, sur plusieurs kilomètres carrés, des routes industrielles, des zones où le sol est complètement retourné, et ça donne lieu à des paysages qui n'ont rien à voir avec la forêt boréale.
Des paysages lunaires, dites-vous, qu'on peut presque voir depuis la lune, je ne sais pas, mais depuis l'espace en tout cas.
En fait, c'est des images, l'exploitation des sables bitumineux est observable depuis... pratiquement depuis l'espace. Elle est tellement étendue dans l'espace et tellement impactante en termes... Et puis le contraste, en fait, il est tellement énorme entre la forêt boréale et ces zones exploitées que finalement, vraiment, ça se voit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rater, entre guillemets, dans ce paysage-là.
Parce que quand on parle des réserves de pétrole au Canada, on parle de 167 milliards de barils récupérables, dont 97% existent sous la forme de ces sables bitumineux. Donc c'est une forme semi-solide à la fois de sable, d'argile, d'eau et de pétrole.
Exactement.
Comment est-ce qu'on extrait ce sable bitumineux pour ensuite en recueillir le pétrole?
Donc l'exploitation de ce pétrole, elle se fait par deux moyens, l'exploitation minière et l'exploitation in situ. Donc l'exploitation minière représente à peu près 20% de l'activité pétrolière de cette ressource, et l'in situ environ 80%. Donc l'exploitation minière, c'est celle qui est historiquement la plus ancienne. C'est les premières formes d'exploitation qui ont été mises en place au nord de Fort McMurray, donc dans cette région minière. Et elle représente environ 80% du pétrole albertain. Il y a encore deux autres sites miniers un peu plus loin.
Donc il y a des mines à ciel ouvert où tout est rasé, des mines in situ où on est censé pouvoir récupérer le pétrole sans raser la forêt. Donc est-ce que ça permet aussi d'aller chercher le pétrole plus profondément?
Exactement. En fait, l'exploitation minière permet de récupérer le pétrole qui est proche de la surface. Donc on peut aller jusqu'à 70 km profond dans le sol. Et l'exploitation in situ permet de récupérer le pétrole un peu plus situé, localisé un peu plus loin. Mais c'est aussi une manière de récupérer le pétrole sans impacter la surface terrestre. Bon, elle n'est pas spécialement moins polluante ou moins destructrice pour l'environnement, mais elle permet à l'industrie de récupérer le pétrole de manière plus efficace et de réduire un petit peu les contraintes de récupération.
Avec des technologies qui, si j'ai bien compris, permettent de faire fondre le pétrole et de le faire remonter à la surface avec des grands tubes. C'est ça? Donc, est-ce que ça fait longtemps... Bon, ça fait longtemps que ces gisements sont connus, mais quand est-ce qu'on a commencé à les exploiter?
Donc, oui, comme vous l'avez dit, on récupère le pétrole à travers des tubes en fait, qui injectent de la vapeur, et sous un effet de chaleur, le pétrole remonte. Donc, effectivement. Le pétrole, donc les sables bitumineux albertains sont récupérés en Alberta depuis 1967, date d'ouverture de la première mine de Syncor, du coup, anciennement Canadian Oil Sands, l'ancien nom de l'entreprise Syncor aujourd'hui.
Donc ça fait déjà quelques années. Les plus grandes réserves prouvées de pétrole des sables bitumineux sont au Venezuela, en Arabie Saoudite et au Canada en troisième position. Les réserves, comme vous le disiez, se trouvent principalement en Alberta. Il y a aussi, si on devait faire une cartographie de l'exploration et de l'exploitation surtout minière au Canada, il y a aussi le Québec.
On se retrouve ici en ce moment sur la plus grande mine à ciel ouvert en milieu urbain au pays, au Canada. La tour Eiffel pourrait tenir dans ce trou-là. On est dans un aperçu de ce qui attend le sud du Québec si on n'agit pas pour mieux encadrer l'industrie minière. On voit que ça atteint toutes les régions de la province. Dans le sud du Québec, comme plus au nord, c'est rendu pratiquement la norme dans l'industrie de faire des fosses à ciel ouvert de cette manière-là, ce qui n'était pas historiquement toujours le cas. On faisait plutôt des mines souterraines, mais là, avec des fosses à ciel ouvert, les impacts sur l'environnement sont décuplés. Les déchets qui sont entreposés pour toujours, là, à jamais, sur le territoire vont également menacer des plans d'eau.
Témoignage d'un avocat de Mining Watch Canada, ici au Québec, qui s'appelle Rodriguez Turgeon. Alors, on parlera tout à l'heure des résistances qui existent au Québec, mais vous nous disiez, Lila Benaza, que l'industrie pétrolière laisse des traces dans les sols, et on l'entend bien ici dans la façon dont cet avocat nous décrit les lieux. Des traces gigantesques aussi dans les paysages, donc ces forêts boréales très vastes qui sont aujourd'hui abîmées, alors que les entreprises, a priori, sont obligées par la loi de restaurer et de réhabiliter ces territoires quand elles les ont exploités. Qu'est-ce que ça donne?
Oui, effectivement, les populations, les entreprises, les pétrolières sont censées remettre les terres dans un état plus ou moins semblable à celui qu'ils ont trouvé avant de commencer leurs exploitations. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation ou la restauration. Dans les faits, on estime qu'environ 1% des terres impactées ont été réhabilitées, donc ce qui est vraiment très peu. Et on parle d'une réhabilitation. Moi, j'ai été sur le terrain pour le coup dans ces zones-là. On n'a pas du tout affaire à des paysages qui pouvaient ressembler à ce qu'on avait avant, du coup, à des forêts, littéralement à des forêts boréales. En fait, pas du tout. On se retrouve avec des zones restaurées qui ressemblent plus à des jardins récréatifs, à des points où on peut faire de la randonnée, des zones d'observation, mais ça ne correspond pas vraiment, en fait,
à ce qui était avant.
Absolument pas.
Alors, l'Alberta est de toutes les provinces canadiennes la plus extractiviste et de loin, puisqu'elle fournit 80% du pétrole canadien. William Saché-Frélon, et j'en profite pour dire, tout à l'heure, j'ai mentionné votre co-auteur et j'ai dit qu'il s'appelait William Saché-Frélon. Donc voilà, c'est le côté professeur tournesol. Je m'excuse auprès d'Alain Deneau, votre co-auteur. À chaque province au Canada, sa spécialité pétrolière et ou minière. Si on devait établir comme ça rapidement une cartographie de l'exploitation au Canada, qu'est-ce que ça donnerait ?
Bien, c'est-à-dire que les provinces qui historiquement se sont consacrées plus à l'exploitation minière, c'est surtout le Québec, l'Ontario et un petit peu plus récemment la Colombie-Britannique. Donc si vous voulez, Québec-Ontario, constituent vraiment les provinces qui ont concentré l'essentiel des investissements et de l'activité minière, et je dirais même encore jusqu'à aujourd'hui.
Avec des gisements de minerais dits critiques aussi, qu'on peut trouver où ça, dans le Grand Nord canadien, de quels minerais parle-t-on ?
Oui, alors le Canada est vraiment... McCarney parle d'une superpuissance énergétique, et le Canada est d'abord une superpuissance minière, c'est un des principaux producteurs miniers. Bien entendu, les minerais conventionnels que sont le cuivre, le zinc ou encore le nickel sont exploités, ou même encore l'uranium, dont le Canada est le second producteur mondial, sont exploités depuis déjà des décennies. Mais comme on a entendu Marc Carnet, il est question de se consacrer à la recherche d'une part, et ensuite l'exploitation, bien entendu, de minerais critiques, et tout particulièrement les minerais qui sont impliqués dans la transition énergétique, comme par exemple le lithium, le cobalt, les terres rares, ou encore d'autres.
En quoi l'histoire même du Canada, William Saché-Frélon, en tout cas l'histoire de son développement territorial, a été façonnée par cette exploitation des ressources naturelles ?
Oui, alors il est vraiment très important de comprendre que les structures, les infrastructures, le peuplement du Canada s'est fait dans une relation, si vous voulez, tout à fait étroite avec la recherche de minerais et la construction des chemins de fer, les voies de communication et la découverte de gisements, eh bien, ont en fait accompagné le peuplement et l'occupation par les colons canadiens et les franco-canadiens du territoire qui est aujourd'hui le Canada. Et en cela, la place boursière qui est Toronto, du côté des mines, eh bien, a constitué un mécanisme privilégié pour la conquête de ces territoires grâce au financement nécessaire, au financement de capital risque qui sont nécessaires pour ce type de projet.
Comment ça marche exactement ? Pourquoi dit-on que la bourse de Toronto a un fonctionnement qui est extrêmement favorable aux entreprises ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, en fait, vraiment l'essentiel du mécanisme en question concerne avant tout l'exploration et la découverte de nouveaux gisements. On peut aussi parler d'identification plutôt que découverte, c'est une question de débat. Mais si vous voulez, cette recherche est une activité risquée d'une manière intrinsèque. Puisque c'est une activité risquée et qui en plus elle est soumise aux fluctuations des marchés mondiaux en ce qui concerne les métaux, qui sont relativement fluctuants, eh bien, ça en fait une activité qui n'est pas nécessairement adaptée pour un financement plus peut-être public ou de plus long terme. C'est pour cela que un financement de société par action, eh bien, constitue un mécanisme idéal pour aller lever des fonds, qui est vraiment la vocation première de ce type de place boursière, lever des fonds pour financer des activités à haut risque de recherche, de prospection, de recherche et d'exploration de nouveaux gisements.
C'est pour ça que la bourse permet aux entreprises, la bourse de Toronto, d'entretenir un certain flou sur le coût d'exploitation future, d'augmenter parfois artificiellement leur valeur boursière. Vous expliquez dans votre livre qu'on peut y mettre en valeur non seulement les réserves avérées qu'une mine contient et dont on sait qu'on pourra et qu'on saura les extraire, mais aussi ce qu'elle contient, mais dont on ne sait pas encore si on pourra l'exploiter, les ressources présumées en somme, ce qui donne lieu à... On est presque surpris qu'il n'y ait pas plus de scandales de spéculation et d'actions qui s'effondrent.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a les avantages d'un système ultra-libéralisé qui permet cette plasticité et adaptabilité du financement et une réactivité aussi du financement face aux nouveaux besoins qui se créent. Donc typiquement, en ce moment, la question des minéraux de la transition et une documentation efficace du sous-sol, si vous voulez. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on est sur un mode, pour le dire ainsi, d'économie casino, qui fonctionne sur la spéculation, sur l'achat et la vente d'actions, et donc en fait le principe des sociétés qui s'enregistrent sur les bourses, les places boursières, la place boursière de Toronto tout particulièrement, c'est de trouver des actionnaires qui vont acquérir leurs actions. Et donc c'est pour ça qu'il y a évidemment une distorsion souvent de l'information concernant les actifs miniers qui sont impliqués, puisque la vocation est de convaincre les futurs actionnaires d'acheter des actions.
Il y a un côté...
Donc là, c'est vraiment un équilibre qui est difficile à trouver. Et comme vous venez de le mentionner, bien entendu, on a pu documenter avec mon collègue Alain Deneau que l'histoire de la Bourse de Toronto, mais pas seulement, aussi il y a eu plusieurs places boursières au Canada, Calgary, Vancouver. Vancouver qui a un jour été qualifiée de capitale mondiale des arnaques. Eh bien, l'histoire de ces places boursières ont été émaillées de nombreux scandales. Et si vous voulez, pour le redire ainsi et le résumer, l'histoire des bourses canadiennes, c'est un cycle qui est un peu toujours recommencé. Un scandale éclate, jette des spéculateurs sur la paille. Des autorités financières des provinces répliquent en imposant une nouvelle régulation. Les spéculateurs exigent, ou les exploitants miniers exigent une érosion de ces régulations jusqu'à ce qu'un nouveau scandale éclate. Le dernier scandale en date est celui de Briex, qui a fait tellement de bruit qu'il a fait l'objet d'un film qui s'appelle Gold, et qui est sorti en 2016, que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous voulez vous faire une idée, parce qu'il est assez bien fait, une idée de la façon dont on peut fonctionner, en fait, les mécanismes financiers autour de ces places boursières.
Une société canadienne qui, en 97, a fait faillite alors qu'elle avait gonflé artificiellement toutes les réserves espérées de ces mines d'or. Et c'est là que les spéculateurs, des milliers de spéculateurs se sont retrouvés sur la paille, comme vous dites, William Saché-Frélon. C'est presque un jeu, on a l'impression, Lila Benaza, pour les entreprises minières canadiennes et non canadiennes, parce que la Bourse de Toronto, elle n'accueille pas que les sociétés minières du Canada.
Oui, en fait, les entreprises canadiennes et non canadiennes ont pour intérêt de développer leur activité économique. Du coup, ils vont avoir tendance à notamment gonfler les chiffres, mais aussi à réduire aussi des chiffres qui ne vont pas dans leur intérêt, donc notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ou de pollution de manière générale.
Et de toute façon, les autorités de régulation de la Bourse de Toronto ne demandent pas aux entreprises de dévoiler toutes les informations dont elles disposent sur les gisements qu'elles sont en train d'explorer notamment. Alors, outre ce fonctionnement très favorable de la Bourse de Toronto pour les entreprises minières, quelles politiques publiques ont été mises en place par le Canada, par l'État fédéral, pour encourager l'investissement dans les mines, Lila Benaza?
Alors, globalement, l'État fédéral a toujours soutenu l'exploitation pétrolière albertaine, notamment à travers de nombreuses subventions, d'une taxation favorable, des réductions d'impôts, et notamment on peut parler par exemple du rachat du pipeline par Justin Trudeau en 2018.
Lequel le pipeline ?
Canada. Du coup, à hauteur de 4,5 milliards, qui est donc plutôt un très gros investissement, c'est à peu près 1 milliard de moins que les investissements qui sont faits dans les énergies vertes au Canada. Donc oui, le Canada soutient les industriels et tente un maximum de sécuriser les capacités du Canada à pouvoir produire du pétrole.
Et aussi en donnant accès à l'eau, à toutes les ressources dont a besoin cette industrie pour fonctionner.
Oui, la régulation en termes de ressources hydriques pour l'industrie pétrolière, elle est très peu contraignante pour l'industrie pétrolière. Les permis qui sont accordés sont généralement très flous. Et il n'y a pas réellement de sanctions quand les pétrolières se permettent de dépasser les limites qu'on leur impose. En réalité, il n'y a même pas de régulation. Et dès qu'on tente d'imposer une régulation, elle est tout de suite vivement critiquée par le gouvernement, notamment de l'Alberta, globalement des provinces de l'Ouest, qui sont très réfractaires à l'interventionnisme d'Ottawa. Donc c'est très compliqué pour l'État central fédéral de maintenir une pression sur les pétrolières.
Et pour obtenir les droits d'explorer ou d'exploiter un sous-sol, est-ce que les entreprises minières sont toujours et nécessairement en position de force, William Saché-Frélon ?
Oui, alors si vous voulez, en fait, je pense qu'il est important de rappeler que, pour revenir à la Bourse de Toronto, on a 1400 sociétés minières qui y sont enregistrées. Ça représente plus de 50% des sociétés mondiales minières comptées en bourse et ça représente 40% des budgets d'exploration. Donc on a vraiment un pôle attractif avec la Bourse de Toronto et pour expliquer en fait cette attractivité du Canada, non pas seulement de capitaux qui lui sont internes à son territoire, mais qui aussi viennent d'ailleurs, d'Europe, des Amériques en général et même d'Asie, il faut comprendre que les juridictions minières canadiennes. Alors, d'une part, bien entendu, il y a des dispositions légales, on vient de l'évoquer, qui sont très, très avantageuses. On a le principe dit du free mining, donc en fait, la possibilité de définir ce qu'on appelle des claims. En France, on parle de permis de recherche via des dispositifs tout à fait faciles, informatiques, sans même se déplacer sur le terrain.
C'est-à-dire qu'on peut revendiquer, vous voulez dire qu'on peut revendiquer une portion de sous-sol, même si c'est sur un territoire qui a un propriétaire, pour le dire vite.
Oui, d'ailleurs, les lois minières partent du principe, ont été conçues en partant de l'hypothèse que l'activité minière est le meilleur des usages possibles du territoire. Ce qui a pour effet, en fait, de reléguer tout autre type d'activité productive, comme même la protection de l'environnement ou encore des réserves ou des parcs naturels au second plan. Et donc, en fait, si vous voulez, quasiment l'essentiel du territoire est potentiellement accessible à des entrepreneurs miniers qui désireraient acquérir des droits d'exploration sur un territoire donné.
Donc d'un côté, des entreprises minières qui ont la possibilité de prendre possession des droits d'un sous-sol en cliquant sur un site internet du ministère des Ressources Naturelles, et de l'autre, des riverains, des habitants, des propriétaires et des élus qui ne sont pas toujours au courant de ce qui est en train de se passer.
Vous ne le voyez pas, mais présentement, là, autour de moi, là, il y a plein de forages, de trous, on appelle ça des carottes, là, pour vérifier là, la quantité de potentiel, si ça vaut la peine qu'il y ait une mine ici en exploitation. On a été très surpris parce qu'il y avait beaucoup de bruit et c'est là qu'on est venu vérifier, voir qu'est-ce qui se passait, faire vraiment d'avertissement.
Je suis malheureusement dans la même ignorance que mes citoyens. Nous avons envoyé une lettre à la ministre indiquant qu'on souhaitait être impliqué, mais on n'a même pas reçu un accusé de réception. Ma compréhension du processus, c'est que le gouvernement souhaite demander à l'industrie minière de faire une analyse de l'acceptabilité sociale. Et c'est à eux de décider quand et de quelle façon ils vont le faire. Je me dirais abandonné par notre gouvernement pour avantager l'industrie minière.
Des habitants du Québec et un élu, David Faron, sur les rives du lac Doré, à l'ouest du lac Saint-Jean. On est ici au Québec. Des industries minières qui parviennent à s'approprier des sols ou des sous-sols qui ne leur appartiennent pas et sans demander l'avis de ceux qui y vivent et de leurs élus, c'est tout le temps comme ça, Lila Benaza ? Le claiming comme...
Oui, concernant l'Alberta, ça représente 140 000 km² de superficie, toutes ces zones qui sont réclamées, en fait c'est énorme, c'est à peu près la superficie de la Grèce, pour s'imaginer un petit peu... de l'étendue des dégâts. Et effectivement, on ne demande absolument pas l'avis des populations locales. Et le double enjeu, il y a vraiment un enjeu très important. Il faut comprendre que ces ressources sont situées dans des endroits marginaux, à la marge de la province, qui ne sont pas vraiment des zones habitées, du moins pas habitées par pas occupé par une grande ville. C'est des zones où on va retrouver notamment des populations autochtones. Mais on estime que on n'a pas à leur demander l'avis puisque l'activité économique prime sur leur usage du territoire. Alors que, historiquement parlant, ces populations ont un droit d'usage de la terre, de l'eau, dû à leur mode de vie traditionnel. Donc on va complètement les spoiler du jour au lendemain de leur capacité à vivre, en fait.
Alors le voudrait-il un Premier ministre qui serait élu au Canada et qui dirait qu'il voudrait mettre le holà sur l'exploitation et l'exploration minière ? Le pourrait-il, William Saché-Frelon, aujourd'hui ? Quelle est la nature des liens entre le pouvoir politique, pour le dire vite, et cette industrie ? Donc, la Bourse de Toronto, vous nous en avez bien parlé, mais des liens presque humains qui existent aussi parmi ceux qui ont pu gouverner le Canada et ceux qui dirigent ces entreprises des mines.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a mentionné, le secteur minier dépend aussi beaucoup des politiques publiques. Les États et les provinces canadiennes organisent et participent à la canalisation des fonds publics et privés vers le secteur minier. Et puis, on a aussi des possibilités d'évitement fiscal qui sont favorisées, et puis un soutien logistique, financier, moral, et puis même diplomatique à l'étranger de la part des institutions canadiennes envers leur société. Donc, ce qui fait que si d'aventure un dirigeant comptait remettre, ce système en question, qu'on a qualifié avec mon collègue Alain Deneau de minéral au État, donc c'est-à-dire qu'un État qui met vraiment une partie de son appareil au service du secteur minier, avec des retombées bien entendu pour les citoyens et les citoyennes, mais des retombées qui passent avant tout par les bénéfices de sociétés privées. Donc si d'aventure un dirigeant commençait à s'opposer ou à vouloir rompre un petit peu avec cette tradition de soutien au secteur minier, il serait probablement débarqué de manière rapide. Donc on a des exemples en fait notamment d'ex-premiers ministres canadiens qui suite à leur mandat, à la fin de leur mandat, se sont retrouvés à comme conseillers pour des sociétés minières ou pétrolières canadiennes, notamment à l'étranger, en mettant notamment par exemple leur carnet d'adresse ou les liens privilégiés qu'ils avaient pu nouer dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions avec des dirigeants, avec des cercles d'élite particuliers, en mettant ce carnet d'adresse au service des entreprises dans le cadre de négociations qui sont, quand on parle de négociations avec les pays étrangers, parfois relativement rudes. Donc Jean Chrétien, par exemple, Joe Clark ou Brian Mulroney, qui sont des ex-premiers ministres, on a pu documenter avec mon collègue Alain Deneau, on a pu documenter de quelle manière ils ont mis leur connaissance et leur capacité, leur carnet d'adresse au service de sociétés du secteur extractif.
Brian Mulroney, qui était Premier ministre dans les années 90 et qu'on a retrouvé ensuite au conseil d'administration de plusieurs de ces entreprises. Alors plus récemment, Justin Trudeau, Premier ministre, qui a démissionné en janvier, avait témoigné un intérêt, une inquiétude pour l'environnement au tout début de son mandat, instauré une taxe carbone qui a finalement été supprimée très récemment. Il n'a pour autant pas tellement essayé de réguler l'industrie minière ou de diminuer la cadence, me semble-t-il. Et William Saché-Frelon, vous expliquer que même sous Justin Trudeau, le baromètre annuel de l'Institut Fraser qui indique les meilleurs endroits où investir dans les mines a continué à placer les provinces du Canada tout en haut de son baromètre. Son successeur, Marc Carney, n'a pas l'air de vouloir faire machine arrière ou ne serait-ce que ralentir la cadence. Au contraire, et on a d'ailleurs compris depuis le début de cette série, grâce à nos invités, combien les déclarations de Donald Trump sur le Canada, 51e État, ou sur les taxes qu'il a imposées dans de nombreux secteurs, a changé la donne politique et éloigné les électeurs du candidat qui se rapprochait le plus d'une rhétorique ou d'une attitude inspirée de celle de Donald Trump. Est-ce que cet élan patriote que ça a déclenché au Canada concerne aussi son activité minière, William Saché-Frelon?
Oui, alors oui, effectivement, quand on écoute Marc Carney, mais on pourrait parler aussi de son concurrent, hein, Pierre Poilievre, qui de ce point de vue-là était relativement sur la même longueur d'onde. Donc, quand on écoute le nouveau Premier ministre, on se rend compte que vraiment l'ambition, c'est de s'appuyer sur la tradition minière canadienne pour faire de ce que lui appelle une superpuissance énergétique. C'est cette ambition aussi d'exploiter ou de produire une énergie verte, comme qu'on a pu l'entendre dans les extraits que vous avez passés. Donc, et même d'être un leader de la transition énergétique, mais aussi, comme on l'a bien compris, d'une certaine manière, de s'émanciper de la dépendance commerciale et aussi diplomatique de son voisin qui aujourd'hui devient un petit peu encombrant. Et donc là, il y a fort à parier, étant donné les déclarations qui ont été faites, d'une part durant la campagne et au cours du discours d'inauguration ou de la soirée électorale, que le Canada parie de manière encore plus intensive sur ses capacités en ce qui a trait au secteur minier, à la découverte de nouveaux gisements et leur exploitation.
Le nouveau Premier ministre canadien, de toute façon, se targue d'être un pragmatiste, comme on dit au Québec, et d'être de toute façon un Albertain, ce qui clôt la conversation apparemment. Marc Carney sur une radio canadienne juste avant l'élection.
Il s'agit de faire avancer les choses, de construire des pipelines à travers le pays pour que nous puissions remplacer les importations de pétrole étranger. Il s'agit de développer l'infrastructure énergétique ici en Alberta. Il s'agit aussi de construire des corridors énergétiques et commerciaux d'ici jusqu'au Nunavut pour avoir des ports en eau profonde supplémentaires et d'autres opportunités là-bas. L'engagement, c'est de réaliser ces projets, des projets sur lesquels nous nous accordons et que nous considérons comme des priorités nationales. Et le gouvernement fédéral utilisera tous ses pouvoirs, y compris de nouveaux pouvoirs législatifs ou de nouvelles lois, pour accélérer la réalisation de ces projets.
Qu'est-ce que ça veut dire, Lila Benaza, accélérer encore la réalisation de ces projets qui bénéficient déjà de la législation la plus permissive au monde? Qu'est-ce que ça veut dire faire du Canada une superpuissance énergétique alors qu'il en est déjà une?
Oui, c'est ça. En fait, le Canada est déjà une superpuissance économique et on en est, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, aujourd'hui, on est à peu près 4 millions de barils par jour qui sont issus des sables bitumineux et qui sont produits chaque jour. L'idée, c'est de continuer à accroître cette production et notamment à travers le développement de nouvelles technologies qui permettraient de pouvoir repousser encore plus les frontières de l'extractivisme.
Mmh. Il s'agit aussi, dit-il, ce nouveau Premier ministre, de favoriser le développement de l'énergie solaire, éolienne, de l'hydrogène, de la géothermie, mais de construire davantage encore de projets d'énergie conventionnelle. De quoi s'agit-il, William Saché-Frelon? Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il a d'ores et déjà peut-être annoncé?
Oui, eh bien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que une partie de son discours, de sa campagne, a été basée sur une certaine forme de souverainisme du Canada vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis du reste du monde aussi, puisque bien entendu, le Canada, comme l'Europe aussi, est dépendante de matières premières qui viennent d'ailleurs, de la Chine notamment, avec les terres rares dont on parle souvent. Donc l'objectif est d'assurer de la part du Canada un contrôle sur toute la chaîne des métaux, depuis la prospection et l'identification des gisements, vers la production de produits semi-finis et même de batteries. Donc il y a vraiment cette ambition de financer en fait toute une série d'activités économiques qui ont à voir avec l'extraction, la transformation, le raffinage et ensuite la production de produits qui sont associés à la transition énergétique. Et cela, ça va être soutenu par des programmes qui, là encore, vont s'appuyer sur des programmes existants de financement qui sont tout à fait aussi particuliers au Canada, avec des avantages qui sont conséquents et qui sont consentis au secteur minier en termes de crédit d'impôt, en termes d'actions accréditives, comme on les appelle, et en termes de participation de toute une série d'institutions publiques et dans le financement direct des activités minières et autres associées à la transformation des métaux, avec aussi la canalisation de fonds privés et même de l'épargne des Canadiens et des Canadiennes vers le secteur minier. Donc il y a un renforcement de ces capacités-là, avec, comme on l'a dit aussi, le soutien politique et moral qui est tout à fait omniprésent dans les discours des institutions canadiennes et des dirigeants.
L'épargne canadienne, tout comme l'argent des actionnaires qui sert de flux, constitue une sorte de flux financier continu à destination de ces sociétés minières, mais aussi des projets à l'étranger de sociétés canadiennes. On a parlé récemment du Mali, par exemple, de cette société Barrick Gold qui a aujourd'hui mal à partir avec les nouvelles autorités au Mali qui essayent de reprendre la main, une souveraineté sur leurs exploitations. En tout cas, en ce qui concerne les projets pétroliers, il s'agit par exemple de relancer deux projets d'oléoduc vers l'Atlantique et l'Arctique pour exporter par exemple le pétrole albertain ailleurs qu'aux États-Unis, puisque cette province ne dispose pas d'accès à la mer et exporte donc massivement son pétrole vers les États-Unis. Aujourd'hui, le Canada ne veut plus être dépendant à ce point de ses exportations vers les États-Unis. Alors Lida Benaza, pour conclure cette première partie, de quelle ampleur est aujourd'hui au Canada la contestation? C'est un sujet que vous étudiez depuis plus récemment, mais qui vous passionne, l'opposition à cette exploitation du pétrole et autres ressources. Vous avez étudié à ce sujet deux provinces, l'Alberta et le Québec.
Oui, j'ai particulièrement étudié le cas du Québec, qui est opposé en fait à la présence du transport du pétrole albertain vers la province du Québec pour l'exporter vers l'extérieur. Les Québécois sont très opposés à ce type de ressources, à l'exploitation de ces types de ressources, dans le sens où ils ont un passé qui est un peu plus militant et un passé un peu plus ancré dans l'écologie verte. Ils soutiennent les mouvements de lutte autochtone. Et notamment, j'ai en tête le cas de Coule pas chez nous, qui est une association québécoise.
Coule pas chez nous, oui.
Mais voilà. Qui veut tout dire, le titre de cette association, dans le sens où on veut à tout prix éviter que le pétrole albertain arrive jusqu'au Québec, parce qu'on sait ce que ça engendre en termes de pollution, notamment à travers les pipelines. Contrairement à l'Alberta, qui, eux, soutiennent totalement l'industrie pétrolière, et à juste titre, les retombées économiques sont énormes, même pour les familles qui en bénéficient, qui travaillent dans ce secteur pétrolier.
Donc au Québec, une opposition beaucoup plus grande. On dénonce ce système extractiviste qui est nécessairement prédateur, dont les Premières Nations, les communautés autochtones notamment, ont fait les frais. Certaines négocient avec l'État fédéral pour tenter de garder la main. On en parlera en focus. D'autres n'ont plus du tout les moyens de le faire. Alors aux auditeurs qui parfois nous écrivent pour dire qu'ils n'apprécient pas notre pause musicale, ce que je peux tout à fait entendre, je vous demande juste si vous le pouvez là maintenant, de tout arrêter, d'écouter le texte de Richard Desjardins, le chanteur québécois. Ce n'est pas une de ses chansons sur les mines, comme il en a pourtant tant écrit, mais une autre qui semble avoir été écrite hier, alors qu'elle date de 1988. Il parle des Américains, les Yankees, qui débarquent sur les terres des Premières Nations.
Ce n'est pas le bruit du tonnerre, ni la rumeur de la rivière, mais le galop de milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur, et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur. réveillez-vous. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come, we y go, v'là les gringos. Ils débarquèrent dans la clairière, ils disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loadé de guns, avance et pogne le mégaphone. Nous venons de la part du Big Control. Son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en amis. Maintenant, assez de discussions et signez-moi la reddition, car bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie. Oh, v'là les Yankees, y come, we y go, v'là les gringos.
Richard Desjardins et sa chanson Yankees, cette réponse d'un Canadien ou cette adresse d'un Canadien, d'un Québécois aux États-Unis, à un président américain notamment, le chanteur québécois Richard Desjardins, engagé contre les mines, qui a notamment réalisé le documentaire True Story, T-R-O-U, sur l'extraction minière, le Canada et son modèle, sa culture extractiviste, son nouveau Premier ministre qui se montre inquiet pour la planète mais qui veut mettre les bouchées doubles en matière de production de pétrole et de terres rares. C'est le troisième épisode de notre série Au Canada consacré. Et dans cette superpuissance extractiviste, les Premières Nations ont été progressivement dépossédées de leur territoire. Au Québec, au nord du lac Saint-Jean, les Inuits tentent de garder la main sur leurs ressources.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ceux qui se nomment eux-mêmes les Pequakamiulnuach négocient encore aujourd'hui un traité avec l'État fédéral canadien, mais depuis les années 2000, ils participent aussi à des projets d'aménagement du territoire, tels que la construction de centrales hydroélectriques. L'enjeu est à la fois d'être consulté, d'occuper activement leur territoire et d'en toucher une partie des revenus. Bonjour Irène Hirt. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Genève. Alors, on compte dans les provinces du Québec et du Labrador, on compte 11 communautés Inuits. Les Pequakamiulnuach sont l'une d'entre elles. Est-ce que leur territoire est facile à cartographier? Est-ce qu'il a un périmètre défini pour qu'on puisse se le représenter? Ou est-ce que leur installation est plus diffuse, éparse?
Oui, alors donc effectivement les Pequakamiulnuach, c'est pas facile à prononcer pour nous. La question du territoire, elle est à géométrie variable hein, selon que le point de référence historique. Vous avez à la fois ce qu'on a appelé les réserves, hein, qui est quelque part une production coloniale parce que c'est l'espace sur lequel les peuples autochtones, la plupart, ont été sédentarisés au XIXe siècle par les gouvernements. Et ça, c'est des tout petits espaces, hein, c'est des mouchoirs de poche, hein, quelque part. Et ces espaces-là s'inscrivent dans un territoire beaucoup plus large qui est le territoire ancestral pour les Inuits et dont ils ont été dépossédés.
Donc une réserve d'un peu plus de 16 km² au sein de territoires ancestraux d'à peu près 100 000 m², mais un peu plus, où ils pratiquent la chasse, en particulier la chasse au castor. Alors vous racontez dans un article pour la revue d'études autochtones la façon dont les Inuits du lac Saint-Jean se sont organisés dans les années 2000, à la fois pour faciliter les transports dans ces très vastes territoires, l'approvisionnement, l'achat de matériel de chasse, pour renforcer aussi le sentiment d'appartenance lors de la chasse aux oiseaux migrateurs qui doit avoir lieu d'ailleurs en ce moment au printemps. Le territoire est indissociable de la transmission de la culture et des connaissances autochtones dans les traditions Inuits. Alors que négocient-ils ces Inuits du lac Saint-Jean depuis maintenant 50 ans avec l'État fédéral canadien? Quel est l'enjeu du traité qu'ils tentent aujourd'hui d'obtenir?
Alors, l'enjeu du traité, ben, il y en a beaucoup, mais c'est justement d'avoir un accès, un mot à dire sur cet espace du territoire ancestral qui est sur lequel dont ils ont été dépossédés et donc sur lequel ils n'ont plus voix au chapitre en raison de tous les développements qu'il y a eu à cause de la colonisation. Hein, on parle d'impact cumulatif, c'est-à-dire l'exploitation hydroélectrique, forestière, minière, etc. Et donc les traités qu'ils essayent, ça fait à peu près une quarantaine d'années maintenant qu'ils essayent de négocier un traité moderne dont le but est d'aboutir à une cogestion du territoire dans ces domaines-là, c'est-à-dire de pouvoir participer aux décisions qui ont trait aux différents développements extractifs ou d'aménagement simplement sur le territoire.
Donc là, en l'occurrence, ce qui existe entre ces Innus du lac Saint-Jean et l'État fédéral, ce n'est pas un traité en tant que tel, mais une entente de principe qui a été signée en 2004 pour l'instant, faute de mieux. Quelle obligation, disons, morale donne-t-elle à chacune des parties en ce qui concerne l'exploitation minière et qu'est-ce qu'elle n'impose pas au contraire ?
Alors, moi, je suis pas spécialiste de l'entente en elle-même. Hein. Le détail, je le connais pas, mais c'est d'arriver à ce que au moins il y ait. Les Innus voulaient au départ un droit de veto sur les projets pour lesquels ils seraient en désaccord, mais pour l'instant, on est plutôt dans la perspective d'une participation dans certains développements et d'une consultation qui serait rendue obligatoire. Mais le problème, c'est que, parce que la difficulté de ce traité, pourquoi est-ce qu'on n'est que sur une entente de principe depuis le début des années 2000, c'est que dans le fond, on est dans un territoire où les Innus, que ce soit les Pekwakaminuts ou les autres Premières Nations Innus, sont minoritaires sur le plan démographique. Donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de parvenir à des accords, beaucoup plus difficile que ça a pu l'être pour d'autres nations, comme les Cris qui ont été la première nation à aboutir à un traité, en fait.
Oui, c'est très particulier pour les Innus du lac Saint-Jean, c'est de vivre dans un territoire où il y a une proportion non négligeable des habitants qui ne sont pas autochtones. Et donc, ces Premières Nations sont considérées comme co-gestionnaires d'un territoire avec d'autres acteurs avec lesquels ils doivent composer. Ils n'avaient pas du tout été consultés dans les années 60, par exemple, lors de la construction d'une centrale hydroélectrique. Depuis cette entente de principe, est-ce que d'autres projets d'infrastructure ont été menés sur leur territoire et comment les Innus ont-ils cette fois-ci été impliqués ?
Oui, effectivement, une des rivières les plus importantes, le cours d'eau le plus important, historiquement, que c'était une voie d'accès vers le nord pour les Pekwakaminuts, c'est la rivière Péribonka.
Et qui est presque un fleuve rivière, pour nous, qui est immense.
C'est une question de vocabulaire. On appelle ça des rivières au Québec, mais dans le fond, c'est des immenses cours d'eau. Ouais. C'est des fleuves pour nous, effectivement. Et sur cette Péribonka, donc, ont été construits plusieurs barrages et centrales dans l'après-guerre, donc années 40-50, pour lesquels ils n'ont pas du tout été consultés. Et ça, c'était une entreprise privée, c'était Alcan. Mais le dernier barrage en 2008, Péribonka 4, c'est Hydro-Québec qui l'a construit. Les Innus du lac Saint-Jean ont été consultés et ils ont négocié des redevances pour ce barrage-là. Donc on pourrait se dire d'un côté, bon, il y a un progrès et il y a des avancées, mais il ne faut jamais oublier que quand on parle des Innus, c'est un peu une simplification. Quand on parle des Pekwakaminuts, c'est aussi une simplification, c'est qu'à l'intérieur de ces communautés, de ces sociétés, il y a évidemment aussi des différences d'opinion, de perspectives, de représentations. Et il y a quand même, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des familles dont c'était le territoire, les fourches des rivières Manouane et Péribonka, et il y a des familles qui ont perdu leur territoire de chasse, et leur territoire de vie aussi, dans lesquels, même s'ils n'y habitent plus aujourd'hui, continuent à s'y rendre régulièrement. Donc voilà, c'est un peu question de point de vue hein, aussi, oui, à l'intérieur de ces mêmes communautés.
Et une question aussi parfois de génération. Certains vous racontent que la rivière Péribonka, par exemple, si elle a été certes sacrifiée, si des familles ont perdu leurs terres sur lesquelles elles chassaient, cela a davantage concerné leurs parents, parfois leurs grands-parents, et que l'attachement à cette rivière dépend aussi de l'histoire familiale et du temps qui a passé ou pas sous les ponts. Peut-être pour conclure, Irène Hirt, qu'est-ce que ceux qui acceptent de négocier pour que des infrastructures, en l'occurrence minières, soient mises en place sur leur territoire, en général, qu'en espèrent-ils ?
Alors, aujourd'hui, la posture ou la stratégie de beaucoup de Premières Nations, c'est de se dire que ces développements, ils ont de la peine à s'y opposer, parce qu'on l'a vu dans le précédent de l'émission, hein, dans la partie précédente, c'est une grosse machine qui avance, et il est difficile de lui résister. Donc, la posture, la stratégie, c'est de se dire, bon, on va essayer de participer à ce développement pour avoir notre mot à dire sur la façon dont il va se faire, mais aussi pour qu'il puisse peut-être se faire selon des conditions qui soient plus durables et surtout qui n'empêchent pas complètement la poursuite de certaines activités traditionnelles de pêche, de chasse, etc., qui sont très importantes pour le maintien en fait de la culture en fait autochtone.
Il s'agit aussi de d'occuper le territoire. Le gouvernement fédéral leur demande sans cesse de prouver constamment qu'ils occupent le territoire et c'est une façon pour eux de le faire. Je renvoie les auditeurs vers vos travaux dont nous mettons les références sur notre site. Merci beaucoup Irène Hirt, professeure de géographie à l'université de Genève. William Sachet-Frelon, vous racontez de votre côté dans vos travaux que les rapports avec les autochtones sont souvent envisagés sous l'aspect d'un conflit à résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est-à-dire que l'installation d'exploitation minière et même avant la préparation des préconditions matérielles et je dirais sociopolitiques en surface de la part des sociétés minières pose toute une série de problèmes, crée des tensions et c'est ce qui génère la multitude de conflits donc qui sont présents bien entendu au Canada mais à l'échelle des Amériques au complet je dirais, notamment en Amérique latine sur laquelle je travaille et où de nombreux conflits ont été documentés. En général, les rapports de force sont largement asymétriques entre tout particulièrement les populations autochtones et les sociétés minières ou les instances étatiques avec lesquelles elles rentrent en négociation. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine inertie, en fait, entre de la part des institutions qui sont profondément coloniales. Et c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour beaucoup d'institutions qui forment les États des Amériques. Et dans le cadre de ces institutions coloniales, il est très, très, très difficile. Il y a beaucoup de désavantages de la part des populations autochtones pour négocier. Néanmoins, comme il a été évoqué précédemment, souvent, il existe une certaine forme de résignation à l'arrivée d'une certaine forme de modernité, si vous voulez. Et si on observe souvent des conflits ouverts avec certaines formes de violence et des actions directes, il y a aussi toute une série de processus et des réactions qui sont contrastées avec une volonté de négocier en fait cet accès à la modernité dans les meilleures conditions.
Mais avec aussi, pardon, on arrive à la fin de cette émission, je vous prie de m'excuser, mais Lila Benaza, un tout petit mot pour dire que la mobilisation aussi, elle coûte cher. Se mobiliser, se battre contre ces projets, ça coûte cher, c'est même rédhibitoire très souvent.
Oui, en fait, les populations autochtones qui doivent lutter contre ces pétrolières pour faire entendre leur voix, doivent engager des sommes qui ne leur sont pas accessibles et en réalité, il leur est même pratiquement jamais été accessible.
Merci beaucoup Lila Benaza, doctorante en géographie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Merci d'avoir été avec nous, ainsi que vous, William Sachet-Frelon, qui étiez en direct depuis Quito, en Équateur, où vous êtes professeur associé à l'Université Andina Simon Bolivar. Et je rappelle que vous avez donc coécrit ce livre « Paradis sous terre, comment le Canada est devenu une plaque tournante de l'industrie minière mondiale » paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous parlez, Catherine, d'un pays auquel on ne pose pas forcément quand on évoque le monde de la tech, c'est l'Arménie.
Ce petit pays, enclavé de 2,7 millions d'habitants, tente de construire une Silicon Valley dans le Caucase, annonce la BBC, pour tenter de relancer son économie au-delà de ses frontières avec l'Azerbaïdjan et la Turquie notamment, fermées depuis des décennies en raison de conflits territoriaux non résolus, rappelle l'agence Armen Press. Alors, contrairement à ses voisins, l'Arménie ne dispose pas de ressources naturelles ni d'accès à la mer, mais tout au long de l'ère soviétique, l'Arménie a été un centre de mathématiques et d'informatique. Aujourd'hui, le pays s'appuie sur cet héritage pour devenir donc la grande puissance technologique du Caucase, note la BBC. Alors l'Arménie veut créer tout un système de start-up, d'incubateurs, d'accélérateurs, explique Armen Press. L'Arménie pourrait grâce à cela prouver que la taille n'a pas d'importance, écrit le magazine polonais New Eastern Europe. Dans ce petit pays donc, l'éducation technologique commence dès le primaire. La BBC s'est rendue dans une école publique de 3 étages dans la banlieue de Yerevan, la capitale arménienne, à la rencontre de Slavik, 9 ans, ou bien d'Eric et Narek qui présentent à leurs camarades leur modèle de serre intelligente qui surveille la température et contrôle des ventilateurs via une application mobile. Ces jeunes inventeurs ont suivi des cours de laboratoire d'ingénierie où ils ont appris la programmation, la robotique, le codage, la modélisation 3D et bien plus encore, tout cela grâce à un programme baptisé ARMAT, contraction de Armenian Mathematics, et qui signifie aussi ARMAT, racine en arménien. Aujourd'hui, 650 laboratoires de ce genre sont répartis dans les écoles un peu partout en Arménie. 24 millions de dollars investis pour cette seule année scolaire, indique Arca Telecom. 16 000 enfants et adolescents âgés de 10 à 18 ans bénéficient donc de ces formations gratuites financées par le meilleur partenariat public-privé du pays, selon le directeur de l'Union des entreprises de technologie avancée cité par la BBC. Il représente 200 entreprises arméniennes de la tech.
Et par ailleurs, l'Arménie vient de créer son premier collège de technologie créative.
Dans la région d'Armavir, à l'ouest du pays, un modèle éducatif unique qui combine technologie, ingénierie et art numérique vante l'agence Armen Press. Ce collège offre jusqu'à 90% de bourses d'études et le transport gratuit de nouvelles opportunités, en particulier pour les 12-18 ans des zones rurales voisines. Les 5 meilleurs élèves de ce collège pourront ensuite bénéficier de bourses complètes pour aller étudier aux États-Unis dès l'été 2026. Un accord a été signé avec l'Université de Columbia. Salut Arevik FM, chaîne de la radio publique arménienne dédiée à la jeunesse. Je suis très heureuse que nous parlions du Collège arménien des technologies créatives, car il se distingue non seulement des autres établissements qui existent en Arménie, et ce n'est pas qu'un simple lycée, affirme Amala Yehoyan, directrice du Centre des technologies. Ce lieu va se démarquer dans un environnement compétitif, dit-elle encore sur Arevik FM. Cet essor des technologies, de l'école jusqu'à la vie professionnelle, enregistre déjà des succès, note la BBC. Pixar, un site internet et une application de retouche photo et vidéo alimentée par l'intelligence artificielle, a été lancée en Arménie en 2011. Aujourd'hui, l'entreprise, dont le siège social est situé à Yerevan et à Miami, est valorisée à 1,5 milliard de dollars, indique le magazine américain Forbes. Et cela révèle l'un des facteurs essentiels pour stimuler le développement technologique de l'Arménie, sa diaspora.
There are around 10 million Armenians, but only 25% lives in Armenia.
Il y a environ 10 millions d'Arméniens dans le monde, mais seulement un quart d'entre eux vivent en Arménie. L'un des plus grands pouvoirs, l'un des outils dont nous disposons, est donc la diaspora, explique à l'émission Business Daily de la BBC Samvel Ratchekian, directeur des programmes chez SmartGate, une société de capital risque basée en Californie et en Arménie. Notre idée, explique-t-il, est d'emmener des entrepreneurs d'Arménie jusqu'à la Silicon Valley, aux États-Unis, où les Arméniens sont nombreux, et nous mettons tout ce beau monde en contact avec des personnes qui travaillent dans l'IA et la biotechnologie. Ce réseautage intensif, résume la BBC, s'appuie donc sur les meilleures entreprises et des investisseurs américains. Et puis l'écosystème technologique en Arménie a connu un essor inattendu en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 5000 à 8000 spécialistes russes en informatique ont quitté leur pays pour échapper au risque d'être envoyés arrivés sur le front, précise la BBC, beaucoup ont choisi de s'installer en Arménie, confirme le média russe indépendant Novaya Gazeta, ainsi que le magazine The Washington Diplomat. Quant aux laboratoires technologiques et d'ingénierie développés dans les écoles arméniennes, ils ont aussi été exportés, indique la radio publique arménienne, et Arca Telecom, exportés en Inde, au Bangladesh, au Koweït et même aux États-Unis.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, ce sera notre dernier épisode de cette série tout entière au Canada consacrée. Nous parlerons plus spécifiquement des politiques migratoires. Dans un instant, les midis de culture.